Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Se risquer à présenter Arthur H., le chevalier chantant de l'amour poétique, c'est une gageure.
Oui.
L'avoir en face de soi, c'est un plaisir.
Merci.
Arthur H., bonjour.
Bonjour.
Plutôt que de farcir l'espace de mots souvent surfaits et potentiellement inappropriés pour décrire votre travail de musicien, plutôt que de risquer une énième évocation galvaudée, on va commencer autrement en fait aujourd'hui.
D'accord.
Et comme dirait des proches à Sagan, Arthur H., comment ça va la petite santé aujourd'hui ?
Ouh là là. Ouh là là. Ouh. Aïe aïe aïe.
La forme.
Je sais pas. Oui, ça va très bien, ça va très très bien. Je suis très heureux d'être là, sous ce beau soleil, cet air pur, ce rallye magnifique.
Qui
pétarade autour de nous toute sa joie printanière.
Ouais, quand... Alors en effet, décrire votre musique, c'est prendre le risque quand même de passer à côté du bonhomme. Du son,
bah, décrire toute musique en général, c'est sûr que c'est délicat.
Ouais. De passer à côté de votre présence sur scène et de votre foisonnante créativité, vous êtes en même temps une voix et aussi un voyage. Vous êtes actuellement en tournée, donc sur la route partout en France, jusqu'au mois d'avril. En quoi la tournée, c'est justement un voyage? Et ce type de voyage, est-ce que c'est aussi une source d'inspiration?
La tournée, c'est pas vraiment une source d'inspiration dans le sens où... tu découvres des nouvelles choses qui vont te donner des nouvelles idées. Par contre, c'est une source de travail absolument magnifique parce que c'est la répétition et trouver toujours le neuf dans la répétition, trouver de l'inédit dans la répétition, ça c'est pour moi c'est une idée très très capitale avec mes amis musiciens. Donc on est connecté les uns aux autres, on est connecté avec le public, on est connecté avec l'endroit dans lequel on est. Et on doit trouver quelque chose dans l'instant qui est frais, qui est neuf. Ça, c'est vrai que c'est très agréable, parce que sinon, la tournée est répétitive. On te fout dans un train, une voiture, on t'emmène à un endroit, et on te dit, voilà, c'est là, tu fais tes affaires ici.
Après, c'est tout à fait impersonnel, les festivals, on ne voit pas le monde, on n'est pas dans le monde.
Voilà, on est dans les gares, dans les hôtels, dans les restaurants, on mange très mal. On nous donne pas à boire, qu'on sort de scène, on nous tape dans le cul, on nous dit maintenant dégagez.
Voilà, on vous sert des saucisses frites.
Des fois on mange plus parce que c'est trop mauvais. Mais à part ça, c'est un grand plaisir évidemment de découvrir des gens, de découvrir des endroits, ça c'est un grand plaisir. Et puis justement de lutter contre cette répétition absurde sur la même chose, comment on trouve de l'air dedans, comment on trouve du nouveau, comment on ouvre une fenêtre, et comment on arrive à pas se répéter en faisant la même chose.
Moi ça me faisait penser au voyage, parce qu'ici on est au pays de Diolfi, et je crois que vous connaissez un petit peu... cette contrée, on vous a vu notamment déjà à la Bizarte, vous êtes venu plusieurs fois. Vous avez un lien spécifique avec cette partie de la Drôme ?
Oui, parce que je suis devenu, ils m'ont invité, donc c'était un petit festival très alternatif au milieu de la forêt. Donc c'était vraiment chouette, très 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 bon esprit, très bel esprit de gens que j'aime beaucoup, parce que voilà, ça fait partie des gens en France qui se bougent le cul tout seuls. Donc, qui décident eux-mêmes de créer un événement et qui n'attendent pas justement la becquetée de qui que ce soit. Donc ça, c'est déjà une grande valeur, je trouve. Et puis, des gens très sympathiques, très chaleureux, qui font leur truc, qui font chier personne, qui font des très belles choses. Donc à l'époque, j'étais revenu plusieurs fois ici en vacances aussi.
Ah d'accord, mais juste après avoir flashé un petit peu sur le coin et les gens.
Ouais,
ça arrive à pas mal de monde ça. Alors le voyage c'est aussi l'émancipation, ça permet aussi peut-être d'affirmer sa propre identité. Vous êtes parti voyager très jeune, je crois, c'était pour trouver la vôtre aussi, d'identité.
Oui, bien sûr, on fuit notre quotidien pour savoir qui on est vraiment, parce que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que les voyages sont principalement intérieurs, quoi. C'est-à-dire qu'on change de contexte, on est arraché de nos racines, on est propulsé ailleurs, et puis là, on perd ses repères habituels, et c'est ça la grande force du voyage, c'est qu'on n'a plus notre regard, l'habitude de notre regard, et du coup on peut éventuellement voir du neuf, encore une fois, et peut-être éventuellement se découvrir un petit peu, parce qu'on est déchargé de toutes nos habitudes. C'est très agréable. On trimballe pas tout, enfin, en illusion, on trimballe pas toutes nos habitudes. On peut les laisser à la maison quelque temps et arriver dans un endroit sans rien connaître, sans connaître personne, et ce qui est extrêmement agréable, d'être naïf, de rien connaître, d'être ignorant, c'est une grande chance.
C'est un peu aussi un ressenti qu'on peut avoir avec la musique, quand on découvre une musique ou un pan entier de la musique qu'on ne connaît pas. Ouais. C'était quoi, vous, votre premier voyage, votre premier rêve éveillé musical ?
Mon premier rêve personnel musical, c'est vraiment les Beatles, quand j'avais 10 ans, parce que ma mère avait une collection de disques déjà, donc j'en avais acheté moi-même quelques-uns, des vinyles, je les mettais par terre, et c'est vrai que toutes ces pochettes des Beatles, ça me faisait vraiment rêver. Puis c'est vrai que dans chaque vinyle, il y a tout un monde imaginaire et extrêmement foisonnant, fou, quoi.
Et c'est vrai que c'est tout un monde, les Beatles, en
bah
fait.
Bah ouais, les Beatles, c'est ils ont 4-5 ans et ils ont quand même...
Oui, ils ont beaucoup produit.
Ils ont pas mal produit, ouais.
À quel moment, Arthur H., vous avez trouvé votre voix ? On est au Festival de la Voix, ici, à Éclat.
Bon ? Ah oui.
Éclat, le Festival de la Voix, depuis 17 ans.
Oui.
Votre voix... Vous l'avez trouvé à quel moment ?
C'était au Alors, moment... c'était le 21 juillet, vers 11h, entre 11h10 et 11h15. Là, je l'avais vraiment trouvé. Alors, l'année, je ne me rappelle plus. Mais après, je l'ai reperdue. Donc, je ne sais pas où elle est. Je me vois au bureau des voix trouvées. J'y vais à peu près une fois par mois. Mais je n'ai jamais trouvé ma voix, parce que ma voix, je ne la connais pas. Je l'expérimente. C'est comme, je sais pas, comme plein de trucs, quoi. L'amour... Il y a des choses qu'on ne peut que vivre et qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas savoir ce que c'est parce qu'on le vit. Et c'est tellement intime, en fait, qu'on ne le voit pas, tu vois.
Ouais,
c'est
ouais.
vraiment un paradoxe. Et donc, ma voix, c'est un truc en mouvement que j'utilise, que des fois, elle n'est pas là, des fois, elle est là, des fois, elle est très chaude, des fois, elle est cassée, des fois, elle est... très forte, des fois très faible, je sais pas trop.
Pourtant, les musiciens, les chanteurs font des choix artistiques par rapport à leur voix. Je pense à Tom Waits qui fait le choix d'utiliser sa voix dans une certaine tessiture. Et j'ai l'impression que vous, récemment et notamment sur le dernier album, vous utilisez des tessitures plus élevées.
Oui,
c'est pas des choix.
Vous savez, la réalité, elle est tellement complexe et vaste et tout ça, que on a besoin de foutre des étiquettes sur le truc pour dire ah voilà, ça c'est comme ça, tu vois, alors que c'est un leurre. Ça n'est jamais comme ça, c'est toujours autrement. Et moi, en fait, ça fait des années que je chante aigu, mais à chaque disque que je fais, on me dit ah, c'est incroyable, vous chantez aigu, c'est fou, c'est une nouveauté magnifique. Et moi, je suis toujours comme un con, dire mais non, mais il y avait 3 disques que je chante comme ça, mais en fait, ça fait longtemps que je chante aigu, même quand j'étais tout petit, par exemple, vers 4-5 ans, je chantais hyper aigu, par exemple.
Avant la mue.
Ouais, avant la mue. J'avais une petite voix très mignonne, comme ça. À peu près comme ça. Voilà, je chantais comme ça. Tu vois, c'était déjà très aigu.
Ah ouais, ça promettait.
Ouais. Je disais, maman, j'ai fait caca. Tu vois, c'était assez aigu à l'époque.
Votre musique est aussi instrumentale que vocale. C'est un véritable foisonnement qui nous emporte dans des moments parfois symphoniques, assez loin d'une chanson au sens classique du terme. Comment ça se pointe, ces morceaux ? Comment ça frappe à la porte ?
Bah, par plaisir, en fait, par le désir justement de voyager, de se laisser embarquer par quelque chose, une vibration, et surtout une énergie, en fait, puisque la musique, c'est finalement de l'énergie. C'est de l'énergie qui nous traverse, qui nous dépasse et qui nous monte d'un cran, en fait. On est là, on est un cran zéro et la musique va nous mettre au cran numéro 3, quoi. Donc... La musique nous traverse, alors ça fait partie effectivement de plein de mystères de la vie, c'est-à-dire que ça apparaît, on est dans un état, tout d'un coup c'est là. Pourquoi c'est là, on ne sait pas, mais c'est là. Et c'est une émotion, c'est une énergie, c'est un rythme. Le monde est rythmique, donc tout d'un coup on est dans un rythme, et ce rythme s'impose de lui-même.
Et vous parlez d'une pulsation,
de
rythme qui vous distingue en fait de la chanson française.
Ah oui, ça c'est sûr que j'ai peut-être un amour, je suis pas le seul d'ailleurs, mais un amour de la musique noire aussi, avec tout ce côté très trans. Alors un peu moins quand je suis au piano tout seul, là où forcément ça revient un peu plus chanson. Mais quand je suis avec mes amis musiciens, ouais, on cherche vraiment la pulsation, la trance. Effectivement, être dans un truc très très hypnotique qui s'éloigne de la chanson classique à la Vincent Delerme, ou de ça, où vraiment tu racontes une histoire, quoi. T'as un texte, qu'un début c'est un petit scénario. Enfin, moi aussi je raconte des petits scénarios, mais j'ai besoin de me perdre dans cette trance. Vraiment, parce que en plus je trouve ça assez contemporain, c'est aussi que ça soit un truc cosmique, la nature, la grande ville, tout ça, c'est
un truc où on lâche un peu,
c'est la transe, c'est s'abandonner. Alors c'est vrai que la France est peut-être des fois un petit peu en dehors du chemin, quoi. Elle est un peu
un petit peu austère,
elle est pas dans ce truc qui nous emporte, qui nous pousse loin.
Justement, vous parlez de la joie en musique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme ça de la joie en musique, du fait de procurer de la joie avec la musique. C'est plutôt rare. Vous avez dit, par exemple, que l'un des artistes qui vous montre la voie est Marc Perron.
Oui, Marc. Oui, Marc. Qu'est-ce
qui vous inspire chez lui et pourquoi vous parlez de lui en tant que par rapport à la joie?
Très particulier. C'est aussi quelqu'un qui, depuis très très longtemps, a une sclérose en plaques assez importante. Maintenant, il ne bouge plus, il joue presque plus, mais ça, c'est une âme pure, Marc. Donc, il avait effectivement cette espèce de grand sourire. Et puis, il y a encore quelques années, il pouvait faire des très longs concerts, faire une espèce de conférence musicale où il racontait son enfance et tout ça. Puis, après faire un spectacle, après faire un bal, et ça durait genre 6 heures. Ouais. Il était là, assis, et c'était absolument magique.
Il procurait aussi beaucoup, il prend du plaisir à donner de la joie aux gens.
Ouais, avec son beau sourire, ouais, c'est vrai. Ouais.
Vous avez envie aussi de procurer de la joie à votre...
Bah, tout à fait, ouais, parce que je trouve que la joie est quand même peut-être l'émotion la plus noble finalement, la plus légère, la plus intéressante, quoi, parce que quand on se sent joyeux, alors je ne dis pas que je me sens joyeux tout le temps, mais j'ai quand même très souvent des moments de joie personnels ou partagés. Et c'est un sentiment qui nous emporte, qui est très léger, qui réclame rien, quoi, qui se suffit à lui-même. Et c'est vrai que pour moi, la musique, ça doit vraiment apporter ça, ça doit apporter un enthousiasme. Vraiment, c'est vrai que quand je vois plein de gens sortir très heureux d'un concert, je me dis que j'ai fait mon...
C'est bon, quoi.
Ouais, que j'ai pas fait mon travail, mais disons que j'ai insufflé une résonance, une vibration qu'on a partagée. Et qui a amené cette forme de légèreté. Et ça n'empêche pas de faire des chansons tristes, des chansons mélancoliques, ça n'empêche pas du tout. C'est pas du tout... Il n'y a pas d'un côté les rigolos et de l'autre côté les tristes, tu vois.
C'est pas une typologie, quoi.
Non, ça serait vraiment... Évidemment, il y a des rigolos et il y a des tristes, mais tu peux être rigolo et triste, et tu peux être triste et rigolo, et très triste quand tu joues une chanson très triste, et après très rigolo quand tu joues une chanson très rigolote.
Si vous voulez rigolo, tapez 2, si vous voulez triste, tapez 1.
Voilà. Mais moi, je trouve ça dommage de se limiter... Et je trouve qu'un concert, c'est un voyage, et c'est un voyage dans lequel on doit passer par plein d'émotions différentes.
Vous jouez en trio avec Nicolas Repac, votre guitariste et aussi le producteur de votre dernier album, ouais. Amour Chien Fou, et Raphaël Séguigné à la batterie. Mais ce soir, ici à la Halle de Diolfi, vous serez en solo, au piano. Ces deux formules, ça doit être très différent. Quand vous êtes en solo, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes en duo avec votre piano? Est-ce que... C'est quelque chose de particulier d'être deux sur scène avec son piano?
Bah, écoute, je me sens jamais seul, en fait. Je me sens avec mes chansons, je me sens avec le public, avec l'endroit, avec le public. Non, c'est pas du tout un moment de solitude pour moi. Vraiment, au contraire, quand je suis tout seul comme ça, je suis encore plus libre de ralentir le tempo, de laisser une résonance, de faire une improvisation. Non, je me sens bien, en fait.
Arthur H, merci.
Merci.
On vous retrouve ce samedi soir pour l'avant-dernière soirée du Festival Éclat sur la scène de la Diolfi pour un très beau voyage en perspective avec vous.
J'espère.
On vous souhaite que le vôtre soit toujours aussi riche. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.
ce vieux truc qui remonte à la surface. Une tristesse comme du surplace. N'aie pas peur, je garde la distance. Je cultive même l'indifférence. C'est une aversion mélancolique. Une aversion mélancolique. Sur la colline en face, je sens ta chaleur contre moi. Mon amour ne te réveille pas. Tout va bien, rendors-toi. N'aie pas peur, je garde la distance. Cette liberté, je sens que quelque chose de lourd me quitte. Je n'avais jamais senti cette légèreté. Je sens que quelque chose de lourd me quitte. Je n'avais jamais senti cette liberté. C'est une inversion mélancolique. Une inversion mélancolique. C'est une inversion mélancolique. Mélancolique.